Nous sommes de retour. Bonjour, nous sommes de retour. Nous sommes heureux de vous voir. J'espère Béry le suit. Oui, d'accord. Le temps passe vite. C'est pas la dernière fois que nous étions ici, il y a 6, 7, 8 mois peut-être. Le temps passe tellement vite, c'est déjà février. Encore un petit peu, c'est Pâques et après c'est Noël. Et le jour après Noël, c'est mon anniversaire. J'aurai une année de plus, le 26 décembre. Nous sommes heureux d'être ici avec vous, vraiment de chanter avec vous, de prier avec vous, d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Combien c'est vrai ce que Béryl dit, ici c'est la vérité. On peut connaître toute la vérité, tous les passages de la Bible, mais si on n'a pas l'amour, on n'a rien, strictement rien. Pourtant, je veux parler ce matin d'un sujet qui est très important. Je veux parler de quelque chose qu'on ne voit pas, mais tout le monde l'a. Et ça commence très très tôt dans notre vie. On l'a déjà et on l'aura de plus en plus. Ça peut nous aider, ça peut nous détruire. C'est quoi?
La confiance.
Comment?
La confiance.
Ça commence avec un C, mais ce n'est pas confiance. Ça aussi. Comme un petit enfant, on n'a pas toujours confiance. Comment?
Conscience.
Conscience, oui, ça se développe lentement. C'est le mot conviction. On a tous des convictions, je vais parler ce matin de conviction. Moi j'avais ma conviction, j'avais une conviction très ferme, que ma fille était petite et moi j'étais grand, plus grand qu'elle. Elle est venue nous visiter, elle habite en Espagne depuis un an et demi, à Barcelone, très jolie ville. On l'a visité pendant une semaine, on était là. Et puis Christine est venue nous visiter il y a 2-3 semaines. Elle est venue de Barcelone en avion, elle nous a vus. Et quand elle est arrivée chez moi à la maison, j'ai dit, Christine, tu as grandi. Vraiment, tu as grandi, tu es plus grande que je n'ai pensé. Elle dit, papa, c'est pas possible. Elle a 43 ans. Ah, 43 ans. Elle dit, j'ai dit, mais vraiment? Et Béryl dit la même chose, mon épouse, donc maman, elle dit, oui Christine, tu as grandi. Elle dit, c'est pas possible. Le lendemain, donc on a bien dormi, et la nuit nous porte
conseil.
Alors Christine a dit quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Elle dit, papa, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Moi, je n'ai pas grandi, mais vous avez rétréci. Et ça, on n'en veut pas, mais on rétrécit à un certain moment. Et quand j'ai regardé autour de moi, il y a des gens qui rétrécissent, d'autres qui grandissent. C'est pas votre faute, hein? Mais c'est comme ça dans la vie. Alors, sur le plan spirituel, nous devons diminuer afin que Jésus devienne plus grand dans notre vie. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et Béryl a parlé de cela. Nous ne pouvons pas grandir assez dans l'amour du Seigneur. Si on a tous les dons, Béryl a dit, je ne vais pas redire ce qu'elle a dit, si on a tout, les ministères, les dons, les talents, les capacités, on a de l'argent, on a de l'intelligence, mais si on n'a pas l'amour, on rate le coche. On n'a pas ce qu'il faut. Parce que l'amour de Dieu, c'est ça qui fait la différence entre nous chrétiens et ceux qui ne le sont pas encore. Parce que dans le monde, c'est chacun pour soi. Comme les bébés, à moi, à moi, à moi. Mais nous, adultes, parfois, nous sommes comme des petits-enfants encore. On est égoïste, égocentrique, au lieu d'être christocentrique. Alors ce matin, donc, je veux parler de la conviction. Maintenant, juste avant, parce que je ne vais pas l'oublier. Le Seigneur m'a parlé hier de vous parler un petit peu des convictions qui sont importantes pour nous de les avoir. Parce que si on n'a pas de conviction, on sera bouleversé par les autres. Le Seigneur m'a donné une conviction il y a quelques semaines, 2-3 semaines, nous sommes plutôt impliqués, Béryl et moi, dans une petite assemblée à Tourcoing, où nous avons commencé dans le Nord. Béryl est d'Angleterre, pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'Angleterre d'origine, de Manchester, avec une équipe de football merveilleuse, Manchester United, un des meilleurs au monde. Et puis, moi je suis de la Hollande, de Haarlem, près d'Amsterdam, avec l'équipe de Ajax, très très bien aussi. Mais pas si bon que Manchester United. Oui, c'est comme ça. Alors, le Seigneur nous a amenés ici il y a longtemps, en 62 déjà, il y a déjà 46 ans. Nous sommes arrivés en France, comme missionnaires, et le Seigneur nous a donné donc un ministère pastoral, relations d'aide, enseignement, encourager les frères et sœurs, et puis aussi parfois l'évangélisation. Et puis le Seigneur nous a dirigés de pas à pas, chaque fois quelque chose d'autre. Et puis donc nous étions ici 4-5 ans avec vous, 4 ans quand même. Hein. Et puis l'année passée, le Seigneur nous a dirigés clairement de faire quelque chose avec un frère et une sœur, Daniel Luban et Marie-Laurence, donc à Tourcoing. Et il y a 2-3 semaines, donc, j'ai donné un message. Et je crois que le Seigneur doit donner une conviction quand on, soit la louange, soit qu'on enseigne, soit qu'on témoignage, donne un témoignage. Il faut avoir une conviction du Seigneur, ce qu'il faut dire et pas dire. Et le Seigneur m'a donné la conviction de parler ce matin-là de l'anxiété. Et donc, je parle là, il y a une dame qui était là, venue pour la première fois avec sa petite fille, une femme de 26-27 ans, Barbara. Et puis, elle était là dans la réunion, amenée par une autre chrétienne, une fille de son âge, une femme de son âge. Et puis, donc, je parle de l'anxiété que même parmi les chrétiens, ça existe. Il y a des gens qui ont la crainte de la mort, peur de mourir. Donc, c'est une illustration parmi les autres. Et Hébreu 2 dit que Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous délivrer de la crainte de la mort. Personne ne veut mourir. Mais moi, je n'ai pas peur de mourir, pas du tout. J'ai peur de souffrir. Qui veut souffrir? Ça, c'est pas normal. C'est sadomaso. C'est pas normal de vouloir souffrir. Ça, c'est pas normal. Mais de mourir, quand je veux mourir, je serai tout près de mon Père que j'ai toujours aimé. Depuis ma conversion, je serai avec Jésus et c'est merveilleux. Et mes frères et sœurs qui sont partis avant moi seront dans le ciel, plus de souffrances, plus de dentistes, plus de problèmes. Tout sera merveilleux. Annette, un jour, on sera là ensemble. On va danser et chanter. Et vous aussi. Nous serons tous ensemble dans la maison du Père. Mais, donc, en attendant, donc, je parle de la crainte de la mort. Je viens de dire... c'était 10 minutes, un quart d'heure au début de mon message, et la jeune femme, la Barbara, commence à pleurer devant moi. Elle était juste à 2 mètres. Elle commence à pleurer. Elle dit, c'est justement mon problème. C'est justement mon problème. Donc elle commence à pleurer. Et je dis donc au pasteur, Daniel, et un autre ancien, je dis, mais est-ce que vous voulez le prendre pour prier avec elle? Non, elle dit, je veux rester, je veux entendre le reste. Oh non, non, non. Je dis, mais dans ce cas, moi j'ai prié pour toi. Donc j'ai prié pour Barbara. J'ai terminé. La femme qui l'a amenée, qui est chrétienne, commence à pleurer aussi. Elle dit, moi aussi j'ai besoin, j'ai de l'anxiété. Ces 2 enfants, si moi je vais mourir, et mes 2 enfants, où est-ce qu'ils vont alors? Donc je prie pour la fille après. Je n'ai pas terminé, il y a un gars qui est aussi, il a 40 ans, 45 ans, il commence aussi à pleurer. Je dis, mince, je n'ai jamais vu ça. Mais ça c'est merveilleux, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la réunion, il y a des gens qui sont déjà touchés par la grâce de Dieu. Et ça c'est merveilleux. Donc quand je donne des messages, ce n'est pas pour... encore avoir un petit peu plus de théorie dans la tête, mais que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur me touche. Parce qu'il veut nous donner vraiment une nourriture pour fortifier, il veut toucher notre âme, qu'il y ait des changements. Qu'il n'y ait pas de changement en nous le dimanche matin, après un culte, pourquoi on est venu? Je crois que nous sommes ici pour être touchés, et puis pour connaître Jésus, et de l'aimer encore plus, et de le servir par amour, pas par devoir, mais parce qu'on l'aime tant. Et quand on aime une personne, j'aime ma femme, normalement ça se montre. Ça se montre quand on aime une personne. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de la conviction. Alors le mot conviction en France, on le trouve dans un livre de monsieur qui n'avait pas grand chose à faire de temps en temps. Il avait des cheveux roux et il a fait un dictionnaire, il s'appelle Larousse. Alors monsieur Larousse, donc un jour, il a fait un dictionnaire. Et puis, on trouve le mot, la conviction dedans. Conviction, ça vient de latin, convictus. C'est une ferme adhésion de l'esprit fondée sur des sentiments personnels. Définition. Agir par conviction, on dit. Être convaincu. Dans la Bible, on trouve aussi, et je vais regarder avec vous, en Romains 14, vous trouvez le mot aussi, Romains chapitre 14, le mot « conviction », même 2 fois. Ouais. Verset 5 d'abord. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça veut dire être assuré, être persuadé. Et le mot en grec, c'est plérophorio, le mot pléro, c'est plérom, ça veut dire plénitude, pleinement convaincu, être pleinement convaincu. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et puis, on trouve aussi ce mot dans le verset 23, même chapitre 14, Romains 14. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On connaît cette expression. Seulement, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le mot conviction n'est pas dans l'original. C'est le mot foi. Ça, ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le mot plérophorio, mais c'est le mot pistios. Pistios. Et ça veut dire donc la foi. Et ça, combien c'est vrai, quand on, le mot foi, parce qu'il y a trois significations, mais je n'ai pas le temps pour le développer, mais le mot foi, ici, ça veut dire l'ensemble de ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. La foi chrétienne. Mais tout ce qu'on fait, ce qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit, on agit selon les mensonges de l'ennemi, on agit selon nos pensées à nous, mais pas la pensée de Dieu. Donc, si on fait des choses ou si on agit, on a un comportement qui ne correspond pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est péché, c'est normal, parce qu'on va contre ce que Dieu a dit. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir. Il faut savoir que nos convictions viennent de où? Nos convictions viennent de nos pensées. Et ce n'est pas nécessaire de regarder, dans l'Ancien Testament, il y a un verset, Proverbe 23, verset 7, qui dit « Nous sommes... » ce que nous pensons. L'homme est tel qu'il pense. La femme est telle qu'elle pense. Tout dépend de ce que nous pensons, parce que nos pensons donc, sont à l'origine de nos actions et de notre comportement. Alors, juste quelques exemples. Par exemple, imaginez-vous une famille avec un garçon. Et la maman dit toujours à ce garçon... Le garçon un petit peu trop tard de son école, ou parfois il n'a pas 19 sur 20, mais parfois il a 9 sur 20. Tu es un zéro, tu seras toujours un zéro, tu es un nul, tu seras toujours un nul, tu seras comme ton père. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, le garçon devient comme un zéro au lieu d'un héros. Il y a une autre maman qui dit la même chose à son garçon, parfois il est aussi tard. Parfois il fait des bêtises aussi, il laisse tomber quelque chose quand il faut faire la vaisselle. Il casse un verre. Il fait des bêtises parfois. Et la maman dit la même chose. Et tu seras zéro, tu n'arriveras jamais dans la vie, tu n'arriveras jamais à avoir un bon métier. Et le garçon dit, tu vas voir, je ne crois pas ce que tu dis. Et lui, il arrive. Il ne croit pas tout ce que sa maman dit. Tout dépend de la réaction, de la conviction qu'il a. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, pour nous, chrétiens, il y a des hommes et des femmes... qui sont mariés et leur mariage ne va pas comme il faut. Divorce. Et imaginez-vous deux femmes. Leurs maris sont partis, ont quitté le foyer et ce sont les femmes qui sont divorcées. Il y a une femme qui pleure tous les jours et même elle blâme Dieu. Il y a une autre femme dans la même situation. Elle dit, c'est vraiment triste ce qui est arrivé. Mon mari est parti avec une autre. Mais je sais que Jésus est mon bon berger. Il veille sur moi. Elle reste attachée au Seigneur. Il y a des gens chrétiens qui blâment Dieu. Et c'est grave. Est-ce que Dieu veut le bien pour vous? Même dans des situations difficiles, dans toutes circonstances. Quelle est notre conviction de Dieu? Comment nous voyons Dieu? Et ça, c'est une chose importante. Comment nous voyons Dieu de notre vie? Il y a une histoire, des histoires vraies, dans la Bible, il y en a beaucoup. Et je pense à ces 12 espions, on en a souvent parlé ici dans le passé. Il y a 12 espions qui sont partis, Moïse les a envoyés, pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce pays promis, avec le lait, le miel et tout le reste, merveilleux, Dieu l'a promis. Et donc, là nous voyons qu'ils reviennent après un certain temps, avec une grande grappe des raisins, et, des histoires merveilleuses, tout ce qu'on trouve, mais il y a 10 qui disent, c'est un pays merveilleux, mais il y a des gens qui habitent là, ils sont comme des géants. Et nous sommes comme des sauterelles. Ils se voient petits. Et puis, ils ont peur. Ils disent, on n'arrivera jamais. Ils ne veulent pas entrer. Et ils influencent le peuple, et le peuple commence à râler. Murmurer. J'aime bien ça en français. Murmure, murmure, murmure. Le verbe, c'est bien, murmurer. Mais Dieu n'est pas content quand le peuple murmure. Mais il y a deux, seulement deux, il y a 10 qui sont contre, qui ont peur, mais il y a 2, Josué et Caleb, qui n'ont pas peur. Et il dit, avec Dieu, même s'il y a les géants, on arrivera. Alors, tout dépend de leur conviction. Ils croient que même quand il y a les géants, quand c'est difficile, ils peuvent vaincre. Quelle est votre conviction? Parce que nous avons tous des géants dans notre vie. Dans le travail, dans la famille, il y a des choses qui semblent impossibles. Beryl a parlé des problèmes de famille, dans les familles chrétiennes. Je ne vais pas donner des détails, mais il faut voir un petit peu. Et le Seigneur est en train d'employer Beryl et moi pour la réconciliation. Pourtant, c'est une famille où les parents, les enfants, ou un enfant, ne sont pas vus depuis 15 ans, chrétiens. Ça fait pleurer le Seigneur, ça nous fait pleurer aussi. Combien de moments difficiles nous avons eu ces dernières semaines, Beryl et moi, parce que nous sentons le cœur de Dieu. Et souvent, nous chrétiens, on demande, la prière c'est toujours demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez compris, est-ce que nous avons compris que la prière n'est pas seulement demander pour nous, mais d'entrer dans la présence de Dieu pour savoir ce qui est sur son cœur, son chagrin à lui. Même étant chrétien, on est tellement centré sur soi-même de temps en temps. Mais ça me prenait beaucoup de temps pour comprendre ça. Je ne vous donne pas de leçons, mais je partage. Et le Seigneur est en train de nous montrer, Beryl et moi, pour entrer dans la présence de Dieu, comment lui y ressent des situations parmi ses enfants. Parce que si nous, enfants de Dieu, ne sommes pas en règle avec Dieu, si nous ne l'aimons pas, comme Beryl a dit, comment témoigner? Si nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes, Seigneur, guéris-nous. Parfois, j'étais dans des réunions avec 300, 400 personnes. Il y a un gars qui est venu pour annoncer que Jésus guérit, bien sûr, Jésus guérit. Jésus délivre, bien sûr, Jésus délivre. Et après cela, des chrétiens, hein, 300, 400 personnes, ils étaient dans des réunions comme ça. Et après, le moment est venu pour l'appel. Ceux qui sont malades, mettez-vous debout. 80%. Je dis, Beryl, c'est un hôpital, c'est pire. Tous les gens sont malades presque, c'est pas normal. Qu'on reste malade. Si nous sommes chrétiens, qu'on soit délivrés, guéris et qu'on se mette sur nos pieds pour témoigner. Et ça, c'est pas normal. Nous disons, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu guéris aujourd'hui, que nous soyons guéris. Et il y a des gens qui ont des problèmes, et 10 ans plus tard, ils sont toujours dans le même problème. Qu'on sorte de nos problèmes. Parce qu'autrement, nous sommes un peuple, comme avec Moïse, 10 qui murmuraient et ils font mûrir tout le monde, et mourir tout le monde aussi. Parce que personne n'est entré. Ils sont tous morts dans le désert. Je crois que quand on est sauvé une fois pour toutes. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. Il n'y a personne qui dit, moi je vais au ciel parce que vous voyez, ma vie quand même n'était pas si mal que ça. Mais moi je suis sûr d'aller au ciel. Pas parce que je l'ai mérité. Jésus l'a fait pour moi. Tout est payé. Alléluia. Je n'ai rien payé. C'est Jésus qui a payé pour moi. Mais on a dit, et souvent dans les réunions, et ça je vais aller un petit peu plus loin ce matin, ce que j'ai remarqué. Christ a payé pour moi, sur la croix, pour mes péchés. Tout est payé. Mais quand on est, il y a des réunions, il y a des assemblées, des églises, on s'arrête là. Maintenant, Jésus a pris nos péchés, maintenant on est libéré, maintenant on est réconcilié avec Dieu, maintenant on a la paix avec Dieu, c'est merveilleux, maintenant on peut aller au ciel. Mais je peux vous assurer d'être pardonné de tous nos péchés, c'est seulement le début. Après cela, le Seigneur dit maintenant, comme un bébé, tu dois grandir, et maintenant tu dois marcher avec moi pour grandir, pour témoigner pour moi, aux autres. C'est seulement le début de la vie chrétienne d'être pardonné. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Maintenant, Seigneur, merci, chaque dimanche, merci, mes péchés sont pardonnés. Oui, merci. Mais c'est seulement le début de la vie chrétienne. Quelles sont vos convictions? Est-ce que vous voulez entrer dans le pays promis, quelque chose de plus que Dieu a préparé pour vous? Et moi, je suis sûr que beaucoup de chrétiens, ils vivent 20 ou 30% de leur capacité et de ce que Dieu a donné. Dieu nous a donné tellement de talents et de capacités qu'on n'emploie pas encore pour le Seigneur. Et parfois, il faut faire attention parce que c'est bien de chanter, c'est bien de prier, mais on ronronne ensemble. Et on ne fait pas des progrès. Et moi, je suis content de l'entendre que vous avez fait des invitations, des choses dans le quartier. C'est ça qu'il faut. C'est bien d'être ensemble, mais aussi de sortir ensemble. Et en ce moment, on est en train de faire ça à Tourcoing, je crois, au moins 1000 foyers, avec un journal 4 fois par an, au moins. Un journal 4 fois, c'est du travail tout ça. Il y a des choses, parce que moi je ne supporte plus des églises, on est juste ensemble, qu'on est bien ensemble, qu'on s'aime bien, hein, l'amour fraternel. Mais c'est l'amour aussi pour les gens de l'extérieur, aussi même pour nos ennemis. C'est dans la parole de Dieu. Même des gens qui sont difficiles dans le travail, dans la famille. Vous savez pourquoi on souffre dans la famille ou dans le travail des gens qui sont difficiles? Parce qu'ils ne sont pas les Chinois on peut les aimer, ils sont loin. Ou les Japonais. Mais dans ma famille, ce sont les gens qu'on fréquente, ça c'est plus difficile. Vous comprenez? C'est bien d'aimer mes voisins en face. Je suis 8 ans maintenant avec Biril à Ronc, j'habite à Ronc. Il y a déjà 8 ans que je suis là, il y a des gens en face, on n'a jamais eu une discussion. Je ne sais pas pourquoi, ils ne me saluent même pas. Et pourtant, moi il y a des gens qui ne veulent pas être salués, alors là, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une dame, je voulais te présenter le calendrier, donner le calendrier. Oh non, 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 non. Il y a des gens qui ont peur. Peut-être ils pensent que nous faisons des messes noires, j'ai entendu ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent à la maison, on fait des messes noires. Je travaille au noir, parfois. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant la nuit. Je suis debout, et dans le noir, je cherche le Seigneur. Personne ne me voit. Est-ce que vous travaillez au noir? Parfois le Seigneur m'inspire, me donne la musique, je compose la musique pendant la nuit. Mais il dit, où est-ce que tu étais? Je dis, je suis en train de composer. Travail noir. C'est souvent pendant la nuit que Dieu peut nous parler. J'ai la conviction que Dieu veut vous parler pendant la nuit. Je veux dire une chose d'autre, parce qu'ici, c'est une assemblée où on aime bien prier. C'est important de prier à l'intercession. Mais le Seigneur m'a montré une chose sur la prière. Parfois, il faut arrêter de prier et obéir. Il y a des choses parfois que le Seigneur nous montre. Il y a des gens qui disent, mais j'ai prié, continue de prier pour moi. Je dis, mais non, je ne prie plus. Maintenant, il faut agir. Aimez-vous les uns les autres. C'est beaucoup plus difficile que de prier, vous savez. C'est facile, hein? Même travailler au noir pendant la nuit. Seigneur, parfois on en parle, Biril et moi. Je dis, mais priez pour moi, priez. Je dis, pas la peine de prier, maintenant agir, pour obéir. Et ça, c'est plus difficile. J'ai la conviction que Dieu va bénir son peuple quand on commence à obéir et de présenter la vérité avec amour. Parce qu'il y a des gens qui disent parfois la vérité, mais ça fait tellement mal, parce qu'ils ne disent pas avec amour. Ce matin, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma famille, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus de détails. Elle me dit, oui, ça va chérie. Elle dit, oui, la façon que tu dis chérie. Parfois on dit le mot chérie, mais ce n'est pas gentil. Ma maman, quand elle dit le mot chérie, c'était toujours pour me reprendre. Tout dépend du ton, ce n'est pas le mot chérie, mais comment tu le dis? Et Berry m'a donné un cours ce matin sur chérie. Et le Seigneur, quand il dit chérie, parce que parfois il nous chérit, c'est toujours dans un ton, pas pour nous reprendre, mais parce qu'il nous aime. Parfois, il nous reprend, mais il ne va pas employer le mot chéri. Alors, il y a des choses à apprendre. Il faut savoir que les convictions venant de Dieu nous encouragent. Ce qui compte, ça peut vous aider. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que Dieu pense de vous. Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Est-ce que vous êtes entré dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de vous dans sa parole? Un verset très connu dans le psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'ai souligné si merveilleuse. Quand je me mets devant mon miroir, je dis je ne suis pas si merveilleux que ça. Alors il y a deux façons de faire. Casser le miroir. C'est pas l'extérieur qui compte. Nous sommes en train de rétrécir et de temps en temps, on n'est pas si beau qu'on a pensé quand on était jeune. Je peux vous dire quelque chose sur ce sujet. Quelque chose qui fait rire peut-être, mais c'est la vérité. Il y a quelques mois, nous étions dans une grande assemblée à Lille, Beryl et moi. Et nous étions invités là et puis après la réunion, il y avait une agape. Et moi, j'aime bien les agapes. Tout dépend de ce qu'on mange, bien sûr. Et quand on était dans les agapes, là, on était ensemble, il y avait des frères qui sont venus de la Hollande. Toute une équipe, je crois, 80 personnes peut-être, de la Hollande, de Rotterdam. Alors, moi, je suis la Hollande, mais c'est rare que je parle de ma langue. C'est rare que je vois les Hollandais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Hollandais ici, dans cette région, qui achètent les maisons. Normalement, ils achètent les maisons plus loin, plus dans le midi. Ils ne viennent pas ici, toujours. Et puis, donc, on mange ensemble à une table, et le pasteur de cette assemblée dit, voilà, un pasteur de la Hollande, toi aussi, pasteur, comme ça, vous pouvez ensemble, pour être pasteurisés ensemble. Donc, on est là, on est 7-8 personnes. Beryl est à table avec moi. Après environ une demi-heure, trois quarts d'heure, il y a un gars en face de moi, vraiment un gars très beau, quelqu'un de mon âge, mais beau. Et puis, donc, il avait vraiment l'allure de Billy Graham en plus. Il dit, mais quel beau garçon. Et il me regarde, il dit, ah, tu es John van den Hogen. Il dit, John van den Hogen, lui. Et il me regarde, il dit, mais je te connais. On était à l'école publique ensemble en 60. Ah, mais c'est merveilleux. Donc je dis, mais oui. Et puis de Rotterdam, et puis on a fait connaissance donc à Bruxelles, l'Institut public de Bruxelles. Il dit, oui, c'est là, 60-61. Donc, oui, oui. Je dis, mais alors, B. Et puis son nom de famille. Il appelle sa femme, Gerry. Gerry. Donc Gerry va venir, sa femme. Elle dit, c'est John van den Hogen. Elle dit, oh, oui, tu as changé, mais le même regard. Quel beau garçon! Quand tu étais jeune. Ah, alors là, elle disait la vérité, mais... Elle disait la vérité, mais ça me faisait mal. C'est mon cœur qui n'a pas changé. Mon cœur est tout ce pareil. Je ne le croyais pas quand j'étais plus jeune. 20, 30 ans, je dis, mais les gens qui ont 70 ans, ils sont vieux. Moi, j'ai 70 ans passés. Et je me sens jeune. Je n'ai pas changé. Dans mon cœur, je suis toujours le même petit John, comme, toujours espiègle, toujours pas si gentil, mais dynamique. Mais le Seigneur m'aime comme je suis. Le Seigneur vous aime comme vous êtes, mais il veut vous amener plus loin. Et donc, ça, c'est une chose importante. Donc, on a fait de temps en temps, on a des surprises. Le Seigneur met sur notre chemin toutes sortes de gens qui nous encouragent, qui nous découragent, mais ce n'est pas important, ce que Dieu... Alors, le Seigneur dit quelque chose de merveilleux. Dans un verset que j'ai mis en musique il y a longtemps, Apocalypse versets 5b et 6. Apocalypse 1, chapitre 1, versets 5 et 6. Qui veut le lire? Dans la version seconde, s'il vous plaît. Révisez. Dans la version seconde, si vous en avez. Ça commence avec A. Yes.
À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles.
Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé Jésus. Et il nous a tant aimé qu'il a payé pour nous sur la croix. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait. Mais il a fait de vous un royaume, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait de vous des princes et des princesses. Oui, un royaume. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est votre conviction que vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas des clochards, mais vous êtes un prince ou vous êtes une princesse? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous voulez dire à votre voisin, tu es un prince ou tu es une princesse? Vous voulez le dire maintenant, dites-le. Tu es un prince, tu es une princesse, vous voulez le dire? Est-ce que vous voulez dire à vous-même, je suis une princesse ou je suis un prince? Dites-le à vous-même, je suis un prince. Je suis une princesse, dites-le encore une fois. Je suis un prince ou je suis une princesse. Est-ce que vous le croyez?
Oui.
Ce matin, dans mon lit, quand je me suis levé, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être prince ou princesse? C'est ça qui compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un prince ou une princesse vit dans la pauvreté? Normalement, dans un royaume, quand même, il y a des choses en abondance que les princes et princesses ont, qu'ils ne les ont pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis, je suis un prince? Vous savez, un prince, il a tout en abondance, normalement. Pas le bonheur en abondance, pas nécessairement, on peut être triste. Hein. Mais nous, parce que nous avons tout pleinement en... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Est-ce qu'on le croit? Quelle est ma conviction? Quand on est prince, le prince, s'il a un, il devient roi. Princesse peut devenir reine. En Hollande, on a eu Wilhelmina, Juliana, Béatrix, sont tous des femmes. Tous ces reines qu'on a eues. Maintenant, on va avoir un roi dans l'avenir. Ça veut dire pour moi, quelqu'un qui est prince, il a une autorité. Est-ce que vous, pas seulement parce que vous êtes maintenant, quand on est enfant de Dieu, c'est pas grâce que vous êtes devenu enfant de Dieu, mais est-ce que vous employez l'autorité que Dieu vous a donnée, comme prince et princesse? Ça, c'est ce que Jésus m'a montré. Est-ce qu'on vit avec l'autorité de Dieu? Tu comprends, Jean-Luc, ce que je veux dire? Parfois, on a peur encore, trop peur. Au lieu d'agir comme prince et princesse, on est intimidé parfois. On vit comme des petits timides, on a peur de ci, peur de cela. L'enfant de Dieu ne va pas avoir peur, parce que Jésus est avec nous. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que c'est pour les autres ou est-ce que c'est pour toi? Quand tu dis, je suis prince, je suis princesse, est-ce que tu vas vivre comme un prince et princesse? Parce qu'avoir le titre, c'est une chose, le vivre, c'est une autre chose. Ça, c'est important. Il y a des gens qui ont changé. Il y a une femme qui est venue chez nous, et un jour, il y a une autre dame chrétienne qui est venue d'Angleterre, et elle a dit à cette fille, « Tu es une princesse. » Elle qui avait toujours des problèmes, et il y a un changement en elle. Il y a un garçon qui est dans notre assemblée, une grande assemblée à Tourcoing, où j'ai été un des responsables, et je voyais toujours ce garçon, il marche comme ça. Et un jour, j'ai parlé avec lui, parce qu'il était mon élève aussi, j'étais ce professeur, et je dis, mais tu trouves ça normal de marcher comme ça? Parce qu'il apportait, en même temps, il apportait des bonnes prophéties. Mais dans sa vie, il trouve ça, je dis, mais tu es un prince, mais un prince ne marche pas comme ça. Et j'ai parlé avec lui, et je pense que quand on commence à se redresser, ça change les gens. Parce qu'on marche comme on est. On agit comme on est. On parle comme on est. Il y a des gens qui se plaignent toujours parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris encore, qui sont des princes et princesses. Ça, c'est important. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Parce que vous écoutez bien, mais est-ce que vous l'avez enregistré? Parce que parfois, je vois les yeux, mais il n'y a pas de lumière. Parce que leur cœur est chez le boulanger, chez la pâtisserie. Ou ils pensent à leur beefsteak ou à leur poulet à la maison qui est en train de rôtir. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est très important. On peut avoir des convictions qui sont bizarres parfois. J'ai une conviction parfois, c'est une petite blague, mais c'est vrai. J'ai pensé, après un certain temps, on a une certaine confiance, les gens vont se confier à moi, c'est cette conviction qu'on peut échanger. J'étais avec un monsieur en Belgique une fois, que je connaissais très bien. On faisait des camps ensemble, et personne ne savait son âge. Moi, j'étais plus jeune, mais je le connaissais quand même, j'avais 30, 35 ans. Et puis ce monsieur, on n'avait aucune idée de son âge. Donc un jour, après 4 années, on faisait des camps ensemble, je dis, mais écoute, John, parce que c'était pas en français. J'ai dit, maintenant on se connaît 4 années, quel âge as-tu? Il était d'Écosse d'origine. Je dis, mais quel âge as-tu? Il me dit, John, est-ce que tu peux garder un secret? Je dis, oui. Il dit, moi aussi. Il n'a jamais donné son âge. Pas parce qu'il est écossais, mais il ne voulait pas donner son âge. Et puis, il y a des gens qui, avec les femmes, il y a de temps en temps, parce que dans le travail, on peut demander encore leur âge. Mais ne demandez jamais leur poids. Non. Là, il faut l'estimer. Parce que dans la relation d'aide, quand il y a une femme qui a un problème, trouble de nourriture et tout cela, c'est bien de savoir un petit peu comment... Mais là, on ne demande pas toujours... Mais il y a des gens qui ont peur de révéler tout. On vit dans le secret. Là, je n'ai rien encore. Il y a des choses qui sont plus importantes. Alors, il y a certaines convictions qui sont dangereuses. Je parle, par exemple, de la doctrine de la prospérité. Vous avez entendu ça? Ça veut dire, il y a des gens qui pensent, le plus que tu es béni sur le plan matériel, tu as une belle maison, une belle voiture, tu as un bon travail, tu gagnes bien ta vie, ça veut dire que Dieu est avec toi. Non. Donc, ceux qui ne l'ont pas, ils ne sont pas bénis. Est-ce que vous croyez dans cela? Dans l'Ancien Testament, c'était vrai pour les Juifs. Pour le peuple juif, oui. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ne sont pas bien, qui n'ont pas grand-chose, mais ils sont plus heureux que ceux qui l'ont. Parce que quand on en a beaucoup, on a peur de le perdre. Et quand je n'ai rien, je ne peux rien perdre. Et je sais que dans ma propre vie, je suis arrivé une fois, quand j'étais en Angleterre, j'ai cherché du travail. J'avais tout laissé en Hollande, j'ai quitté ma famille, j'ai fait mes études, je n'avais plus rien, je cherchais du travail. Et il y a un moment, ce qui est arrivé, j'avais peut-être un franc qui me reste, et un franc n'était pas assez pour acheter pas de dentifrice. Mais Dieu sait combien j'aime quand même brosser mes dents de temps en temps, pour être propre. Mais je n'avais pas assez d'argent. Beryl était ma fiancée, elle n'était pas au courant. C'est facile hein, de prendre le téléphone et de parler aux autres. Dieu est au courant. Je ne priais même pas pour cela. Parce que disons, il faut prier. Même pas. Mais Dieu connaît. Et le lendemain, pour la première fois dans ma vie, en Angleterre, j'ai reçu un don. Je crois de 100 francs. 10 livres, c'était 100 francs. Et de ce fait, j'ai eu confiance en Dieu parce qu'il connaît mon état. On n'a pas besoin de se lamenter, on n'a pas besoin de se plaindre, on n'a pas besoin de dire, voilà, ça ne va pas, priez pour moi, parce que Dieu connaît. Parce que je l'aime. Et il m'aime. Et vous savez, quand on a cette conviction, on peut être heureux dans toutes circonstances. Quand ça va bien, quand ça ne va pas bien. Et ça, pour moi, la vie chrétienne est beaucoup plus importante que de donner des cours. Qui suis-je que on est à Beryl est appelé, et moi, de donner des cours. Il y a des choses qui se passent en ce moment qu'on n'a jamais vues. Je reçois des coups de téléphone de mon frère, encore une demi-heure, on a parlé ensemble il y a deux jours. Mon frère Tony en Hollande, il dit, parce que j'ai 71 ans, je vais avoir 72 ans cette année, il dit, maintenant vous avez un petit peu de repos quand même. Il pense, je n'ai jamais travaillé autant que dans ma vie en ce moment. Et c'est la vérité. Ma fille Christine dit, papa, maman, on est tellement pris. Des gens qui viennent nous voir, des cours à préparer, et c'est des choses qu'on voit en vrille qu'on n'a jamais vues. Pas seulement ici dans le Nord, mais ailleurs aussi. C'est fou. Imaginez-vous, en ce moment, on est en plein dedans, ce n'est pas la première fois, on a déjà donné un cours sur un séminaire de 12 heures, 12 à 14 heures sur le mariage. Par des circonstances, imaginez-vous, par des circonstances, nous sommes venus par une sœur qui nous a invités pour un repas et pendant à la maison chez elle pour faire connaissance avec son pasteur. Donc on est allé et quand on a parlé avec ce pasteur, on a dit un petit peu ce qu'on enseigne et qu'on a un cours, un séminaire sur le mariage. Et on a ensemble, il dit, est-ce que vous voulez le faire dans mon église? J'ai dit, oui, quand? Alors on commence, il y a déjà 2-3 mois, hein, ça, on en a parlé 2-3 mois. Et puis il dit, oui, il y a 9 couples qui vont se marier chez nous cette année, plus des gens fiancés que nous avons. Est-ce que vous voulez venir 2 samedis, tout entier, donc 9h30 jusqu'à 18h le soir? On commence ce samedi, le 1er mars, et puis après cela, 2 semaines plus tard, le 15 mars. Toute la journée, Assemblée de Dieu à Lille. J'ai jamais vu ça avant. Il dit, est-ce que vous donnez des cours bibliques? Je dis, oui, ça arrive aussi. Est-ce que vous voulez venir pour donner une étude biblique? Je dis, mais quand? Par exemple, 2 ou 3 mercredis soirs de suite. Je dis, mais je vais bien. En novembre, j'étais là, un mercredi soir, 2, 3. Je dis, mais combien de gens viennent dans votre réunion étude biblique? Peut-être il y a 20 ou 30. Il dit, non, entre 50 et 200. Chaque soir, il y avait 200 personnes. La salle était pleine. Il avait soif. Ça, c'est normal. Une soif pour la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Parce que de donner un cours public pour 50 minutes, ça, c'est rien. Mais la préparation, c'est 10-15 heures par cours. Et ça, j'aime ça. Est-ce que tu es pris? Oui. Pas parce que ce que je fais devant vous, mais avant. La prière est de savoir ce que Dieu veut nous donner. Et je trouve c'est merveilleux. Donc, je ne rouille pas. Béry, on ne rouille pas. On ne s'ennuie pas. Il y a des gens qui ne vivent pas de la famille. Maintenant, on travaille plus que jamais. Et je suis heureux. C'est mieux comme ça. Yann, c'est pareil pour vous, hein, yes. Elisabeth. Hein. Si vous voulez avoir une vie qui est pleine, donnez-vous au Seigneur, pas seulement pour être sauvé, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Vous allez voir, c'est de conviction que j'ai. Et quand on a des gens qui sont, pendant la semaine, remplis de l'Esprit de Dieu, qui travaillent pour le Seigneur, disent, voilà, qu'est-ce que je peux faire encore? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va changer tout. En ce moment, je suis en train de préparer un cours sur les habitudes. Il y a toutes sortes de choses sur les habitudes qu'on a. Parce que nous avons tous au moins 95% d'habitudes. Par exemple, quand je roule ici de ma maison pour venir ici, j'avais l'habitude dans le passé, donc c'est comme le pilote automatique, je n'ai pas pensé de réfléchir, ça va tout seul. C'est une habitude. Heureusement qu'on a ces habitudes, on n'a pas besoin de réfléchir chaque fois, d'appuyer ça, appuyer... Non, on a des habitudes, ça change tout. Alors, la première chose que j'ai appris dans les habitudes, soit qu'on a l'habitude qu'on réagit par réaction, ou le contraire. Ce n'est pas moi qui réagis, mais c'est moi qui prends l'action, c'est moi qui commence. Soit que tu fais tout dans la vie... par réaction, parce qu'il y a des événements, il y a des choses qui font, des choses qui arrivent, et tu réagis, ou c'est toi qui provoques, c'est toi qui commences, c'est toi qui prends l'initiative. Vous comprenez? C'est une habitude. Est-ce que tu réagis toujours quand quelqu'un propose, tu réagis, ou est-ce que toi qui proposes de temps en temps? Et le Seigneur m'a montré des choses, il veut me montrer des choses que je dois faire, et s'il y a des réactions qui sont positives, c'est bien, si c'est négatif, ça c'est, laisse le Seigneur agir. Ça, c'est la première chose que je suis en train d'apprendre sur les habitudes. Est-ce que nous réagissons toujours? En ce moment, en France, moi, je ne fais pas la politique parce que je suis resté néerlandais. Donc, je ne suis pas devenu français. Mais en France, en ce moment, on a un président qui fait des choses que les autres n'ont pas fait. Il faut voir les réactions tout le temps. Et moi, je me marre. Je ne dis pas tout ce qu'il fait bien, mais on n'a jamais vu ça avant. Un président qui court à gauche, à droite, il est partout. Et qui propose tout le temps, il bouleverse tout. Les gens n'ont pas l'habitude, parce qu'en France, on aime la révolution, mais pas le changement. C'est ça que j'ai appris d'un pasteur qui est français, M. Lermenot. Il dit, en France, on aime la révolution, mais il ne faut rien changer. On crie dans la rue, on râle, et on râle, et on râle. Mais qui propose? Nous, chrétiens, nous avons des choses à proposer, ce que Dieu nous montre. Et c'est ça ma prière pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut? Et proposer vérité avec amour. Des choses qui sont nouvelles, pas le ronron, pas les traditions. Il y a tellement de chrétiens qui sont tombés dans les traditions. Et Béril et moi, nous en avons marre de voir les traditions. Dans nos familles, c'était comme ça. Je suis d'une famille où papa et maman avaient toujours raison. Les enfants avaient toujours tort. Je n'ai jamais vu ma mère ou mon père qui m'a demandé pardon pour une chose. Que ça change. Parce que nous, parents, nous pouvons faire des erreurs. Je suis bien trompé avec ma fille. Elle n'a pas grandi, moi j'ai rétréci. Ce n'est pas la peine de râler, c'est comme ça. De temps en temps, il y a des choses qui nous arrivent, ça c'est entre parenthèses. Mais de temps en temps, nous pensons, parce qu'on est plus âgé, qu'on a raison. On est pasteur, les pasteurs ont toujours raison. Les pasteurs ont souvent tort aussi. Qui sommes-nous? Il faut se remettre en question. Et ça, sur ce plan-là, on a tout à apprendre. Alors, juste encore une petite illustration. Les circonstances montrent la valeur de la réalité de nos convictions. Les circonstances autour de vous montrent la valeur de votre conviction. Et je pense pour terminer, Habakkuk. Nous ne vivons pas dans une époque facile. Beaucoup de gens, nous sommes ici... Vous avez des vêtements, vous avez une maison, vous allez chez vous, vous avez un repas. Vous n'êtes pas SDF, je pense. Ça se peut qu'on va avoir des SDF qui vont venir, de plus en plus. Dans ce sens, quand on est chrétien, nous sommes tous devenus SDF, dans ce sens. Parce que nous n'avons pas de domicile fixe. Le Seigneur va revenir bientôt, on sera avec lui. Notre maison est là-haut. Amen. Parfois, nous chrétiens, on est trop lié. Alors, pour terminer, c'est la page 1013, autrement je ne le trouve pas. Je l'ai noté dans ma Bible, je blague. 1013, Habakkuk 3, versets 16 à 19, pour terminer. Alors, Habakkuk vivait dans un moment très difficile. Ça peut nous aider pour suivre cet homme. Donc, j'ai toujours trouvé cet nom bizarre, Habakkuk. Alors, monsieur Habakkuk. Chapitre 3, verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18, heureusement je trouve ça. Merci Seigneur, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes lieux élevés. Jusque-là. Vous savez ce que ça veut dire? Famine. Famine, famine. Plus de figues, plus de raisins, plus d'olives, rien à manger. Plus de bœufs, plus de brebis, plus de viande, rien. Vous savez, ça peut arriver en France. Il y a longtemps, quand ma fille Christine était journaliste, on parle un petit peu ensemble sur les circonstances déjà il y a 15-20 ans. Elle dit, papa, dans l'avenir, le problème dans le monde, la lutte ne sera pas pour le pétrole, ça sera pour l'eau. On aura des problèmes parce qu'il n'y aura plus d'eau. Et ça commence déjà dans certains pays. Pas seulement en Afrique, mais dans le Midi et partout. Et ce sera de pire en pire. Et moi, je ne suis pas un prophète de mauvaises nouvelles. Mais préparez-vous. Préparez-vous pour l'avenir. Assez proche. Il y a des choses qui vont arriver. Maintenant, ça va encore. Les gens râlent. Mais même si on a beaucoup d'argent et tu n'as pas d'eau, qu'est-ce que tu fais? Quand les magasins sont vides, qu'est-ce que tu fais? Même avec ton argent. Préparez-vous. Moi, je compte sur le Seigneur. Et lui, il dit quelque chose, ça va très mal, Seigneur, mais malgré tout, et j'aime le mot toutefois, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous avons quelque chose, nous avons un privilège, frères et sœurs, que le monde n'a pas. Moi, je ne comprends pas mes voisins qui ne sont pas chrétiens, qui continuent comme ça de vivre, sans espérance, juste comme ça, s'il n'y a rien. Moi, je ne comprends pas ça. Quel privilège que nous avons. Vous vous rendez compte? Être prince et princesse, pas seulement d'avoir le titre chrétien, mais d'avoir Jésus dans notre cœur. Nous avons un trésor de notre vie. Et je crois que le temps est venu. Pourquoi je parle comme ça? Le temps est venu pour avertir les autres. Parce que nous sommes de bon côté, par grâce. Mais les autres, ils vont à l'enfer. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne parle pas beaucoup dans nos réunions de l'enfer. Parce que ça fait peur. C'est lourd. C'est négatif. Et pourtant, de temps en temps, je sens très fort... Nous devons avertir les gens. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mes voisins? Ils ne me parlent plus après. Tant pis pour eux. Pas pour moi. Mais je dois les avertir. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que nous faisons avec notre vie? Qu'est-ce qui fait avec ma vie aujourd'hui et demain? Quand je vais à Auchan, souvent, parce que c'est à côté, donc Auchan, c'est juste à côté. Quand j'ai l'occasion, c'est mon champ missionnaire. Auchan missionnaire. Je suis Auchan missionnaire. Bon, le magasin, nous sommes dans un quartier, Beryl et moi, il n'y a pas de petit magasin. Et les gens m'ont dit, les gens ne parlent pas parce qu'il n'y a pas de petit magasin. Sur les grandes surfaces maintenant. Donc les gens n'ont plus de contact. On peut être dans un quartier maintenant, 20-30 ans, on ne connaît pas les voisins. On ne connaît même pas leur nom, parce que les gens peuvent maintenant mettre leur nom. Et je crois que nous devons être prêts, pratiques, ça peut être dans le social, ça peut être, être abordable, de prendre l'initiative. Si nous ne prenons pas l'initiative, qui va la prendre? Et c'est ça que j'ai déjà dit, vous êtes mes, vous serez mes témoins. Je crois que nous devons être beaucoup plus militants, Jean-Luc, plus virils, plus virils, pour les hommes, les femmes aussi. C'est bien de parler de l'amour. S'il y a quelqu'un qui a parlé de l'amour, donner des messages de l'amour, c'est John. J'ai été connu pour ça. John parle encore de l'amour. Mais il y a un moment que, oui, l'amour, ça veut dire aussi, par amour, il ne faut plus avoir peur d'accoster les gens. De toucher les gens, parce que le temps est court. Je me réjouis en ce moment. Combien de temps? Il y a des gens ici aussi, peut-être, des personnes qui ont prié pour notre fille Christine. Il y a un changement en elle seulement depuis une ou deux semaines. Quand elle demande pour la prière, elle dit il y a des choses, des combats à livrer. Le Seigneur m'a montré, nous devons être comme des soldats, c'est un combat spirituel. Elle n'a jamais parlé avant comme ça, c'est pour la première fois. Nous devons entrer dans le combat spirituel. Et ça, c'est viril. Il faut avoir des convictions maintenant que le temps est court. Jésus va revenir bientôt. Quand je suis arrivé à Tourcoing, c'était en 67. Avant, nous étions dans le massif central, dans les montagnes, à 1000 mètres. On a vécu au Chambon-sur-Lyon à 1000 mètres. Ici, il n'y a pas grand chose qu'en montagne. Ce n'est pas nécessaire. Ça change un petit peu. Mais quand je suis arrivé en 67, on voyait sur les murs à Tourcoing, Jésus revient bientôt. Des grandes affiches. On ne voit plus. On n'en parle plus. Et moi, j'ai dit, Jésus revient bientôt. Merci Seigneur. Mais pour les autres, pour ma famille, j'ai deux frères qui ne croient pas. Il y a un frère qui me le dit, moi, je ne crois en rien. Mais ça ne touche plus, ça me touche. C'est bien de prier, mais aussi de parler. Quand je l'ai vu la dernière fois, j'ai essayé de parler un petit peu. Quand même, parce qu'il faut. Le temps est court. Ça peut être dans un email, ça peut être dans une lettre. Il faut demander au Seigneur le moment de le faire. Mais fais-le. Ne priez pas seulement. Agis maintenant. Ça, c'est ma conviction. Nous devons agir. Que le Seigneur bouleverse notre cœur. Qu'on soit touché de notre cœur. Je me tiens là peut-être. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire ce matin? Le Seigneur veut il a une révolution d'amour en nous qui fait qu'on agit. Et je vais prier maintenant. Est-ce que vous voulez vous mettre debout, s'il vous plaît? Seigneur, je te remercie ce matin pour chacun, chacune ici, pour mes frères et sœurs. Nous sommes ici devant toi. Et Seigneur, je suis ici avec mon cœur vide, avec mes mains vides, Seigneur, devant toi pour recevoir de toi. Seigneur, je veux recevoir ta lumière sur ma vie. Je veux savoir, Seigneur, ce que tu as sur ton cœur. Seigneur, tu as les fardeaux, et dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des prophètes. On les appelle de temps en temps les petits prophètes, parce que ce sont 3-4 chapitres. Mais ils parlent souvent d'un fardeau qu'ils avaient reçu de toi. Seigneur Jésus, je demande pour cette assemblée, pour les personnes ici ce matin à Vavrin, que tu montres ce que tu as sur ton cœur, ce que tu veux partager, Seigneur. Qu'ils entrent, Seigneur, dans le sanctuaire, dans le temple, comme David a dit, ce que j'aime le plus, ce que je désire le plus ardemment, c'est d'être dans le temple, dans la présence de Dieu. Seigneur, je demande vraiment que tu mettes un feu dans notre cœur pour toi. Touche notre cœur, Seigneur. Merci pour ton amour, mais merci aussi, Seigneur, pour ton amour pour les gens dehors, Seigneur, qui ne sont pas encore à toi. Je demande que tu nous donnes un cœur qui brûle. Seigneur, je te remercie pour un homme comme Habacuc, Seigneur, qui était comme nous. Il voyait ce qui se passait, il n'était pas aveugle. Il se réjouissait en toi, mais Seigneur, quand même dans ce même livre, nous voyons qu'il avait un fardeau et il l'a apporté à son peuple. Il a parlé, Seigneur. Je demande que tu nous donnes donc la sagesse. Ce qu'il faut dire et pas dire. Je te remercie pour chacun et chacune. Et je demande que nous soyons remplis de Jésus. Seigneur, je demande vraiment que nous soyons remplis de ta parole aussi. Je demande, Seigneur, pour ce peuple ici, ton Église, Église, réveille-toi, qu'elle soit militante pour toi. Le temps est court, Seigneur. Oh, Seigneur, accompagne-nous cette semaine. Que nous commencions cet après-midi ou demain, Seigneur, d'être de lumière pour toi, parce que le temps est court. Merci, merci, merci. Seigneur, parle-nous. Montre-nous comment prier. Comme les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et après, Seigneur, à obéir. Seigneur, en ce moment, tu es en train de bouleverser la vie de Béryl et de moi-même. Seigneur, pas une révolution qui vient de ton cœur. Que ta bénédiction soit sur nous. Et quand je dis le mot bénédiction, ça veut dire la présence de Dieu en vous. La protection de Dieu en vous. La provision de Dieu pour vous. La direction de Dieu pour vous, c'est ça pour moi, quand je dis le mot bénédiction. Seigneur, montre-nous ce que tu veux et sauve les âmes. Seigneur, je demande pour dimanche prochain, quand Jean-Luc et Annette soient là, et d'autres peut-être ici, Seigneur, pour recevoir qu'il y ait des témoignages que Dieu a fait, Seigneur, avec les uns et les autres. C'est ça que nous voulons voir, Seigneur. Nous ne voulons plus avoir des petites réunions, qu'on ronronne bien ensemble. Seigneur, maintenant, c'est le moment d'être mobilisé par toi. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour la famille de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce champ missionnaire autour de nous. Seigneur, tout est blanc. Seigneur, tout est blanc autour de nous. Le champ est blanc. Il y a beaucoup de gens qui ont soif de toi, peut-être, qui te cherchent, Seigneur. Ouvre nos yeux. Seigneur, on l'a chanté. Ouvre nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Amen.